Bienvenue dans cette réunion des droits d'auteur Olic Anonyme. Donc bonjour, je m'appelle Bouillou et je suis droit d'auteur Olic.
Bonjour Bouillou.
Bien, bien. Alors écoutez, vous n'aviez même pas votre texte. Donc bravo. Non, franchement, vous êtes au top. Non, parce que les gens n'ont pas tout le temps encore l'habitude. Des conférences de droit d'auteur Olic, hein, je veux dire, on est habitué. Voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour initier un peu ces réunions de droit d'auteur Olic sur Toulouse. J'espère que voilà, ça va être un peu repris, hein, qu'on puisse comme ça entre personnes qui sont accro au droit d'auteur. Hein, on est accro une fois, on est accro toujours, sachez-le. J'espère que ça pourra permettre de se réunir, de parler du mal que le droit d'auteur a pu faire à l'intérieur de nos vies. De pouvoir comme ça partager nos expériences et ainsi se sortir un peu de ce fléau les uns les autres, les unes les autres. Voilà. Donc moi, si j'interviens, en fait, c'est parce que je suis droit d'auteur Olic, évidemment, et que je m'en suis sorti. Voilà, ça fait à peu près, un peu plus même de 2 ans que je n'ai pas touché au droit d'auteur. C'est très gentil à vous. Donc en fait, si j'interviens, c'est en qualité d'auteur, hein, très exactement, sachant que j'ai quand même un parcours artistique qui a commencé plutôt du côté comédien, en faisant des détours par la radio, les chroniques, ensuite en écrivant des romans, enfin on va en parler, hein, de tout ça, en écrivant des romans, et puis en continuant des romans, des scénars de romans BD. Il y a une conférence après où ils parleront de tout ce qu'ils m'ont volé, ces connards, et même donc de la chronique radio et vidéo actuellement, je porte un t-shirt qui en parle. Voilà, je tiens vraiment à donner aujourd'hui un message d'espoir. Oui, le droit d'auteur est une drogue, oui c'est un fléau de société, mais on s'en sort, j'en suis l'incarnation vivante. Donc voilà, et on s'en sort comment? Tout simplement en suivant les 12 étapes du programme. Tout simplement. Et donc, on va commencer, je vais un peu, au final, vous raconter mon parcours à travers ces 12 étapes pour vous dire que c'est possible, pour vous dire que vous aussi, vous pouvez vous en sortir. Et donc, la première étape, eh bien, c'est d'admettre qu'il y a un problème. Hein, c'est toujours la même étape. Et pourtant, c'est pas facile. C'est pas facile, on vit quand même dans une culture où cette drogue est en vente libre, elle est encouragée par l'État, hein, à l'instar de l'alcool et de la cigarette, je ne vais pas vous l'apprendre. Voilà, cette drogue du droit d'auteur est en vente libre et on nous incite terriblement. Moi, ça a commencé, j'étais au lycée, je suis dans une petite troupe de théâtre de rue médiévale On se posait pas trop la question, on réécrivait des vieux textes médiévaux, on les réadaptait pour nous, pour nos scénettes, nos farces, nos contes, nos chansons de gestes. On se posait pas trop la question de droit d'auteur, il n'y avait pas vraiment besoin, c'est des trucs du domaine public qu'on rebidouillait pour nous et pour faire ce qu'on avait envie de faire. Mais, à un moment donné, il y a eu un schisme dans la troupe, hein, vous savez, la troupe de théâtre amateur, c'est tellement passionnel, qu'il y a eu un schisme et il y a eu la peur qu'on nous vole nos textes. La peur, hein, un élément essentiel du fléau de la drogue. Voilà. Et donc là, on a commencé à vouloir protéger les œuvres. Et on s'est dit, ah, on a trouvé quelque chose là, du droit d'auteur. Ça va être trop bien, ça va nous protéger, ça va être formidable. Et quand même, dès le départ, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit problème. C'est-à-dire que l'auteur de la troupe a protégé ses textes. Quand quelqu'un a vraiment essayé de nous arnaquer, elle a demandé à la SACD, Société des auteurs et machin dramatique, là je sais plus quoi, on s'en fout. Elle a demandé à la SACD l'aide juridictionnelle, mais la SACD avait dans ses contrats des petites lignes en bas qui faisaient que quand c'était ta première année, que la cotisation était payée, mais que tu avais. Non, on ne va pas pouvoir vous aider juridiquement là, sur ce coup-là. Désolé, oui, vous êtes bien fait arnaquer, mais il va falloir payer votre avocat. Ah bon? Et comment vous nous protégez? Ben en fait, c'est pas, voilà, si vous payez un avocat, on peut vous dire que c'est pas bien. Ah bon? Et attendez, parce que là, on va faire un festival. Nous, on leur facture notre prestation au festival pour le théâtre de rue. Vous leur prenez 300 euros pour l'auteur, bon, très bien, mais Mais un an plus tard, on se rend compte que sur ces 300 euros, le père en a touché, je sais plus, c'était 80 ou 120 euros. Enfin, voilà. C'est... Mais il n'y a pas de problème, là. Putain, on a la CCD, on a besoin de d'argent pour les salaires, le papier, le frais, la debouche, le... Enfin, voilà, je sais pas, aller aux Champs-Élysées, regarder leur entrée magnifique en marbre, et ils ont des frais, quoi, il faut qu'ils vivent, les mecs. Bon, les auteurs, on s'en fout, ils font ça par passion. Donc voilà, on se rend bien compte qu'il y a un problème, et donc, je tiens à préciser, c'est une drogue, et à une époque, l'alcool, on vous le vendait comme ça. Voilà, début du XXe siècle. Ben, le droit d'auteur, on en est là, aujourd'hui. On en est là. Et il y a un problème. Et pourtant, je commençais à baigner dans une culture où je me suis dit, mais tiens, les logiciels à télécharger, c'est vachement pas mal, parce que moi, j'ai pas les thunes, donc voilà, je commence à télécharger les logiciels. Bon, après, j'ai découvert que pour pas me télécharger, parce qu'à l'époque, on était sur la Lune et tout ça, pour pas me télécharger des logiciels avec des grosses merdes, ben, fallait mieux télécharger du logiciel libre, d'autant plus qu'il marchait mieux sur mon ordinateur, sur le logiciel propriétaire, mais c'était pas du tout optimisé. Voilà. Et puis, je faisais aussi partie de communautés de fansubbing, c'est-à-dire des gens qui sous-titrent des séries, par exemple, etc., et qui se posent pas trop la question du droit d'auteur. C'est, écoute, c'est génial cette série, il n'y a pas une télé qui va faire le taf pour l'amener en France, nous on a envie de la partager, bah donc on va prendre les sous-titres et on va le faire de manière quasi professionnelle, en se donnant des règles précises et tout ça, et on va le faire. Voilà. Et là, déjà, assez jeune, hein, à l'époque lycée, étudiant, je me rends compte que droit d'auteur, bah, y a quand même un problème. C'est là qu'on peut passer à la deuxième étape. Il y a un problème, mais le droit d'auteur est partout. Voilà. Et là, en fait, il faut du coup commencer à regarder un peu comment fonctionne cette mécanique du droit d'auteur. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'y croire? Parce que c'est une belle histoire, hein, le droit d'auteur, je vous rappelle, comme toute drogue, va subvenir à tous vos besoins, va remplacer tout ce dont vous avez besoin. Il vous suffit d'avoir du droit d'auteur, quoi. Voilà. Et en plus, elle va vous permettre d'atteindre le succès, elle va vous protéger des vautours, des vilains, des méchants et tout ça. Donc, on voit bien que ça marche pas trop, il y a des soucis, mais pourquoi est-ce que j'y crois? Et là, il faut aller aux origines du problème. Voilà. Le droit d'auteur en France, beau marché, alors on pourrait remonter un peu plus loin, hein, un peu plus loin, à l'arrivée de l'impression en France, en Angleterre, et où on se rend compte que ben, d'un coup d'un seul, l'Église se dit « Oh merde, c'est plus moi qui contrôle les bouquins, là !» Parce que moi, j'avais les moyens de copiste, donc tous les bouquins qui sortaient, c'était moi qui décidais si c'était oui ou si c'était non, quoi. Là, n'importe quel connard avec son imprimante peut faire quelque chose, mais wow, ça va pas le faire, ça. Donc l'Église va se mettre en chenille avec le pouvoir en place. Les lettres patentes du roi de France vont accorder des monopoles d'exclusivité aux imprimeurs et pendre les autres qui utilisent des presses à imprimerie. Là, on est au 16e siècle, hein, fin 16e siècle, début 17e. Et en Angleterre, c'est Marie Tudor qui va donner un monopole exclusif à la société des éditeurs imprimeurs londoniens, des imprimeurs libraires, pardon, londoniens, qui va leur donner un monopole exclusif pour pouvoir censurer tout ouvrage qui ne serait pas catholique, puisque Marie Tudor veut réinstaurer le catholicisme en Angleterre. Donc l'origine de base du droit d'auteur, c'est le monopole pour la censure. Voilà. Mais quand même, les choses évoluent, la presse se diffuse en Europe, la technologie arrive, et puis on a Beaumarchais, l'auteur qui a défendu les auteurs. Ça, c'est l'histoire qu'on a tous et toutes en tête. C'est l'auteur qui a créé la SACD, merci, et qui a fait accepter au gouvernement révolutionnaire, il crée la SACD en 1780, et 10 ans plus tard, 1790, gouvernement révolutionnaire, eh bien, on va reconnaître la SACD et instaurer le droit d'auteur. Merci Beaumarchais, qui n'est qu'un auteur. À part si on regarde sa page Wikipédia. Ce Beaumarchais, en fait, bon, il était auteur, ouais, mais il était homme d'affaires. C'est lui qui a vendu pour le compte de la France les armes au général Lafayette, hein, pour qu'il aille se battre aux États-Unis. C'est en fait, Beaumarchais, il était aussi éditeur. Ah, il a édité Voltaire en arnaquant les ayants droit de Voltaire sur les droits de ses bouquins. Il était imprimeur libraire, parce qu'à l'époque c'était le même métier, mais il avait des presses à impression. Et puis surtout, il avait une papeterie en Normandie. En fait, Beaumarchais, c'était la chaîne du livre. J'ai le papier, j'ai l'édition, Je suis imprimeur libraire, je vends, et en plus je suis auteur. Voilà. Et en fait, son modèle à lui, Beaumarchais, c'est pas forcément un mauvais boucle, et clairement, il fallait aussi défendre les auteurs qui se faisaient voler déjà par les imprimeurs, les éditeurs et par les théâtres. C'est pas un mauvais bouffre. Son truc, c'est de dire, si tu veux être auteur, en fait, et gagner ta vie avec ça, il faut être toute l'industrie du livre. Il pensait ça, parce que pour lui, pour être auteur, il fallait être bien né et bourgeois, forcément. Il était bien né et bourgeois, donc il pouvait pas imaginer autre chose. Mais donc, du coup, il a créé un système, qui est un système qui favorise toute une industrie, où lui se fonctionnait sur chaque maillon de la chaîne. Mais en effet, le maillon qui était le moins nourri par ça, c'est quand même le maillon de l'auteur. Et donc là, quand on commence à se rendre compte de ça, hein, on peut commencer à lâcher prise. Voilà, puisque, comme toute drogue, à un moment donné, on se rend bien compte des conséquences. Des vies sont ruinées, des destinées sont complètement sapées. Je veux dire, il y a combien d'auteurs ont cru qu'ils seraient le prochain Marc Lévy avec beaucoup d'espoir? Ben quoi, il y en a qui s'excitent, hein, on va pas juger non plus. Et se rendre compte qu'en fait, si t'es pas Marc Lévy, tu l'as un peu dans l'œuf. Voilà, source de l'Express. Alors, le plus petit camembert, c'est quand même l'État. Merci. Parce que si l'État n'était pas là, on serait dans la merde. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a différents métiers de la chaîne du livre, que celui qui touche le moins, c'est systémique, c'est celui qui est à l'origine de cette chaîne. Alors, je vous ai pris, par exemple, le livre, parce que je fais partie du monde du livre. Il y a très récemment Thierry Crouzet sur son blog et sur ses fils d'information, qui a balancé les mêmes infos par rapport à l'industrie du disque et qui a retrouvé des chiffres encore plus récents sur l'industrie du livre et notamment sur le nombre de livres édités, etc. C'est vraiment formidable, je vous recommande. Donc voilà, et en fait, on se rend compte aujourd'hui, notamment en regardant les chiffres du rapport de l'AGESA, c'est la Sécurité sociale des auteurs, hein, auquel on cotise pour avoir une sécu ou une retraite. En regardant les chiffres de l'AGESA, on se rend compte que seuls 10 à 15% des auteurs en France vivent de leurs droits. 146 en 2013. 146 personnes vivent de leurs droits d'auteur littéraire en France. 100 fucking 46. Voilà. Tous les autres ne touchent pas un SMIC de leurs droits d'auteur. Ça veut dire quand même tous les autres, 85 à 90%, l'immense majorité qui sont complètement ruinés par cette drogue parce qu'ils sont persuadés que cette drogue va subvenir à leurs besoins, mais non, elle les ruine. Et du coup, il y a aussi une question qui me vient dans ces cas-là, c'est, on aime tous notre petit libraire de quartier, hein, je ne dis pas le contraire, on aime tous le petit éditeur qui se bat bec et ongles, vraiment, parce qu'il y a des gens qui font un boulot formidable, il faut distinguer les petits libraires et les petits éditeurs, des industriels de la culture. C'est très important. Néanmoins, sur tout ce monde-là, est-ce que seuls 85 à 90% d'entre eux ne vivent pas de leur métier? Voilà. Et je veux dire, même les petits libraires, même les petits éditeurs, bon, beaucoup n'en vivent pas, hein, faut bien s'en rendre compte, mais quand même la plupart en vivent. Je pense que, j'espère pour eux qu'une majorité en vivent, ce qui n'est pas du tout le cas pour les personnes qui sont à l'origine de cette chaîne. Donc voilà, et à un moment donné, faut comprendre comment ça marche. Je vous ai déjà donné la réponse tout à l'heure. Faut comprendre comment ça marche parce que on voit bien que dans les origines du droit d'auteur, tout comme dans son application, c'est une drogue qui nous pourrit la vie plus que, au final, ce qu'elle nous apporte. Et pourquoi est-ce qu'on continue à se droguer? Qu'est-ce qui fait que? Je vous ai dit, je vous ai donné la réponse tout à l'heure, c'est la peur. Voilà. Je suis mon dragon sur mon tador. J'ai peur. En fait, j'ai peur de quoi? J'ai peur d'être un génie. Ouais, parce que si jamais je suis Marc Lévy, si jamais je suis Lady Gaga, génie quoi, un truc de dingue, eh ben j'ai ça. Et tout le monde va vouloir me le piquer, ça. Et donc je vais prendre une bonne petite dose de droit d'auteur pour ne plus avoir peur. Et comme ça, je sais que je vais être protégé. Voilà. J'ai peur d'avoir du succès. J'ai peur que les gens s'intéressent à ce que je fais. Donc, petite drogue. J'ai peur de gagner au loto, en fait. Et parce que on veut tous croire qu'un jour on gagnera au loto, qu'un jour on sera riche, on va défendre les intérêts des riches plutôt que de défendre nos intérêts de maintenant. Hein, je vais préférer futur moi hypothétique, hein, celui qui a réussi et qui est au-dessus de tout le monde, là-haut, sur son petit piédestal. J'ai préféré ses intérêts à lui que les miens de maintenant. Parce que futur moi hypothétique est peut-être plus bandant que moi maintenant. Voilà. Et donc cette peur, cette non-considération de soi et de ce qui se passe et de ce que l'on fait, fait qu'on va croire en des chimères et on va se transformer en un dragon. Alors ça peut être classe, un dragon, hein, dans le Hobbit aussi, je suis, enfin voilà, il est joli ce mug, mais dans la vie, être un dragon, enfin c'est pas, voilà, c'est pas hyper génial, parce que ben derrière, ça nous amène à faire des saloperies. Et à un moment donné, du coup, quand on se rend compte de tous ces mécanismes, eh ben on peut commencer à se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait, et est-ce que ce que j'ai fait était vraiment classe quand j'ai mis des barrières. Hein, voilà, quand j'ai mis des verrous sur mes livres numériques, des petits DRM là, oh, c'est génial les verrous, je fais chier les gens qui m'achètent, exprès. Les autres s'en foutent, ils ont piraté, hein, donc ils n'ont plus le verrou. Bah oui. Donc voilà, en fait, ils n'ont pas piraté, ça n'existe pas, ils ont juste partagé en fait, ils ont fait le boulot de diffusion pour moi, mais je m'en rends pas compte. Donc du coup, je mets des barrières d'un côté pour les uns, et pour les autres, je veux dire qu'ils sont piratés, je vais me méfier de toi qui lis mon livre. C'est mal, pourquoi tu lis? Mais vilain, je veux bien que tu lis, évidemment, mais pourquoi t'as pas payé? Vilain, et donc je vais me méfier, hein. Je vais être un vendeur et je vais te sortir mon grand souffle de flamme de dragon. Voilà, en disant que c'est mal et que... Et du coup, je vais instaurer entre nous une relation, tu vois, hein, t'es super à l'aise, là, enfin, c'est agréable à vivre, hein, on est d'accord, hein, de se cracher sur la gueule comme ça. Alors qu'au final, on a quand même un truc qui nous relie, c'est qu'on a une œuvre qu'on aime bien tous les deux, parce que moi, j'ai envie de la sortir, et puis toi, t'as eu envie de la lire. Tu vois, donc, voilà, il y a quand même quelque chose. Et pourtant, je me suis transformé en un dragon, à cause de cette drogue, en instaurant de la méfiance, une relation de méfiance, parce que, aussi, il y a une mentalité, une industrie, qui me dit que je ne dois pas être auteur, que je dois être vendeur. Voilà. Et donc, forcément, bah, la vente, ça veut dire créer de la ressource rare, ça veut dire garder pour soi, et ça veut dire taper sur les doigts de tous les autres qui veulent ma ressource parce que je vais les considérer comme des voleurs. Alors que, fondamentalement, si tu partages mon livre, merci, tu fais le boulot de diffuseur, et je t'assure, des diffuseurs, on en manque, mais bon, en tout cas. Donc voilà, et ça, c'est pour ça que je veux rendre hommage à Bloom, qui est un autre auteur libre qui fait beaucoup d'expériences et qui aurait presque pu venir cette édition, je ne désespère pas de le faire descendre à Toulouse, Lionel Pericot. Il avait fait un magnifique article, j'adore ce titre, publier, c'est rendre public, et on voit qu'on sort de sa cage. Voilà. C'est uniquement quand on commence à se rendre compte du mal qu'une drogue nous fait, et que du mal qu'elle nous fait faire aux autres, et même à ses œuvres, à soi-même, eh bien qu'on peut commencer à se détacher de tout ça. Et en effet, publier une œuvre, c'est juste la rendre publique. En revenant à l'étymologie, c'est ça la démarche. Bien sûr, après cette démarche, il faut que j'arrive à en faire quelque chose. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, cette drogue nous quitte, comme ça, hein, les dernières molécules partent des veines, et on se dit, ben, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, je vais peut-être commencer par entériner. Moi, ça m'est arrivé en écrivant mon premier roman. Ce roman, donc Smarter Dead, c'est sur noenote.fr, pour ceux que ça intéresse, mais il y aura des livres. Ce roman, c'était un roman feuilleton blog. J'écrivais chaque jour, du lundi au jeudi, je sortais un épisode, j'écrivais le matin, le soir à 17h28, je le publiais. Le vendredi, en plus, on faisait une petite discussion sur le blog, vu que c'était un blog, j'avais des lecteurs qui commentaient, etc. Et donc, le vendredi, je profitais de cet espace pour parler moins en tant qu'auteur, non plus l'épisode de fiction, et j'échangeais avec les gens. Et le fait de faire ça tous les jours, pendant 4 mois, ce qui a fini par faire un premier roman, je me suis vraiment rendu compte, mais en fait, pour pouvoir écrire tous les jours, je me rends bien compte que l'inspiration... Elle fait feu de tout moi. C'est pas moi qui décide, c'est une espèce d'ogre qui va, comme ça, prendre dans mon domaine public, dans ma vie, tout ce qu'elle veut. Elle, un peu comme les rêves, ça va s'inspirer de la discussion que j'ai eue hier soir avec un pote, du livre que j'ai lu il y a 3 ans, de la blague que j'adore de La Cité de la Peur, et d'une citation de Cyrano Bergerac aussi, parce que voilà, je suis fan. Donc cette inspiration, elle est libre. Le fait aussi que la réception d'une œuvre, est fondamentalement libre. On peut faire une petite expérience, hein. Si je vous écris que nous sommes dans un salon, les murs tendus de velours rouge, quelques moulures au plafond et un fauteuil Brissette. Vous l'imaginez, ce salon. Vous voyez, il y a certainement une fenêtre, certainement des rideaux dans votre salon, et certainement un meuble, peut-être avec de la marqueterie dessus. Mais je ne vous ai rien dit de tout ça. Je vous ai donné trois détails. Mur tendu de velours rouge, moulure au plafond, fauteuil Louis XVI. Et pourtant, vous avez créé tout un salon. Exactement comme quand on y regarde ce nuage, chacun se crée sa forme. Au final, moi, en tant qu'auteur, mon travail n'est pas de vous donner un imaginaire tout cuit. Je vous donne une recette de cuisine, je vous donne un code source. Et c'est vous qui compilez l'œuvre, chacun et chacune, à l'intérieur de vous. Et c'est vous qui recréez l'œuvre. Et mon travail, c'est de vous aider à recréer cette œuvre. Et même, je peux jouer avec ça. Je peux vous donner quelques détails sur un personnage, en oubliant un énorme détail, parce que ça ne se voit pas. Et puis, au bout de 22 pages et de quelques indices, de 22 épisodes et de quelques indices, de dire, en fait, ce personnage, depuis le début, il était comme ça. Et vous ne le voyez pas. Et du coup, je joue avec votre code source, parce que vous devez recompiler votre code dans la tête. Et ça marche, et c'est jouissif entre nous de jouer comme ça. Voilà. Et tout ça, c'est libre, c'est un flux d'informations comme ça que je ne peux pas maîtriser et avec lequel on joue comme ça dans des jeux d'aller-retour. Et donc, du coup, si tout ça est fondamentalement libre, pourquoi mettre des barrières? Et c'est là que les NoéNotes, vous voyez NoéNotes.fr en haut, c'est là que les NoéNotes sont passés sous CC0, donc dans le domaine public vivant. Voilà. Il n'y a plus de barrières. Je vais me détendre du droit d'auteur, là. J'arrête la drogue. J'arrête. Ça y est, aujourd'hui, j'arrête. Je détends tout ça. Et, sérieusement, plus de justice entre nous. Ça n'empêchera pas qu'il y en a certains qui font, actuellement, et qui feront les connards avec mes œuvres. J'ai pas de soucis. J'ai d'autres armes que la justice. La justice, ce serait d'utiliser un bazooka contre quelqu'un qui marche sur ma pelouse. À un moment donné, c'est ma pelouse qui va souffrir, quoi. Non? Je peux très bien vous foutre un petit shitstorm sur la gueule. Voilà, si tu veux bien marcher sur ma pelouse et que ça m'énerve, j'ai des crottes de chien, je te les balance dans la gueule. Pas de souci, tu vois. Et voilà, et quand je dis qu'il y a des gens qui le font, je peux vous raconter une anecdote, j'ai toujours pas fait le shitstorm, parce que bon, je m'amuse, mais j'ai autre chose à foutre en ce moment. Mes premières pièces de théâtre sont disponibles sur mon site www.pouillou.com, en e-pub, en PDF, et il y a quelqu'un qui les a pris, qui les a foutus sur Amazon, qui les vend à 3-4 euros. Il en a parfaitement le droit, il ouait. On a parfaitement le droit. Par contre, c'est fait de manière moche, c'est fait par un robot. Je peux vous le dire parce que, par exemple, si vous regardez le résumé de la deuxième pièce, en fait, son robot a pris les premiers mots de l'e-pub et les a foutus en résumé. Donc, le résumé de ma deuxième pièce, c'est la dédicace. Et donc, il commence par « Au grand, sans qui je n'aurais pas pu être le petit, à machin et à bidule. » Voilà. Ce n'était pas un super bon résumé pour ma pièce. Et donc là, je me dis, ce serait quand même amusant de dire « Amazon, tu te fais faire naquer le cul par un petit malin. » Voilà. Et qu'on aille foutre des commentaires là-dessus en disant voilà, vous vous faites arnaquer si vous l'achetez chez Amazon alors qu'il est gratuit là-bas. Et que même d'autres personnes aillent le vendre sur Amazon, mais cette fois-ci en faisant bien le boulot, en mettant de jolies métadonnées, parce que c'est un travail d'aller vendre, et qu'ils se fassent du fric avec, c'est cool, parfait. Mais voilà, là c'est juste fait de manière moche, donc je me dis un jour, je lui ferai de la mauvaise pub à ce gars-là, c'est peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, c'était pas prévu que je parle de ça, mais voilà. Mais tiens, ça va très bien. Voilà le shitstorm. Oh purée, je savais même pas que j'avais une transition, non. Voilà, une fois justement qu'on s'est libéré de tout ça, on peut commencer à instaurer une nouvelle relation. Parce que quand on sort de la drogue, on est un peu fragile. Okay? Et là, on a besoin des autres. Et vous, en tant que personne qui aimait la culture et le logiciel libre, les créations libres, culture et logiciel, c'est de la création. Même matériel d'ailleurs. Voilà, vous qui aimez ça, c'est là que vous intervenez. Accueillir les personnes, les créateurs et les créatrices qui viennent vers le libre. On a besoin d'aide parce qu'on était dans la méfiance. On veut bien, par cette licence, dire « Regardez, je vous fais un contrat de confiance là. Je veux bien entamer un cycle de confiance. Je veux bien qu'on arrête de se cracher sur la gueule, de se traiter de voleur, de se traiter de dragon, etc. Mais là, je vais avoir besoin de vous. » Et moi, j'ai expérimenté ça. Ça marche d'enfer. J'ai expérimenté pour mon deuxième roman, Mon Orchide, où j'ai dit aux gens, voilà, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse des livres papier gratuits? Qu'on arrive à créer du gratuit ensemble? Est-ce que vous payeriez pour que d'autres aient des livres gratuits? Mon deuxième livre, il doit se vendre 22 euros, prix unique, la loi prix unique, le prix unique du livre. Il doit se vendre 22 euros. Le problème, c'est que si je vous le vends moi en crowdfunding, c'est du circuit court, donc tous les intermédiaires, il y a 10 euros d'intermédiaire à peu près là-dessus, ce serait pour ma poche. Ben, plutôt que de les garder dans mon tas d'or, là, ces 10 euros, on va les utiliser pour acheter des livres 1, pareil, à 12 euros, hein, à un prix sans intermédiaire, donc en payant l'auteur, en payant l'éditeur et en payant l'impression. On va acheter des livres 1 à 12 euros et on va les rendre gratuits. Voilà. Eh bien, j'ai demandé ça. 92 personnes ont soutenu cette démarche. 3333 euros de chiffre d'affaires pour un petit auteur pas connu qui sort d'Internet. C'est ma foi pas mal, j'ai envie de dire. Et on a réussi à libérer 88 livres papier comme ça qui ont été distribués lors de rencontres, de remeleleux, de dédicaces, de choses comme ça. Avec à chaque fois, je tendais à la personne le livre en lui disant « Voilà, si ce livre est gratuit, c'est qu'il y a plein de gens qui ont voulu le partager avec toi. » Qui te connaissent pas, qui savent pas qui tu es, mais ils ont voulu le partager, ils ont voulu faire cet effort de dire on va investir cet argent là-dedans. Voilà. Et c'est même marqué à l'intérieur des livres, il y a un petit autocollant qui explique comment ça a été rendu gratuit, quoi. Et au final, quand on demande de l'aide, les gens répondent présents. Parce qu'on a entamé ce cercle de confiance. Parce qu'on a dit voilà, mon œuvre, je la mets dans le pot commun, venez, servez-vous, et puis on va peut-être faire des trucs amusants ensemble si vous aimez ça et si vous en avez envie. Et là, on commence vraiment notre désintoxication. C'est là que les bonnes nouvelles commencent à arriver. Et du coup, on peut même aller encore plus loin. On peut même aller vraiment vers la rencontre du public. C'est ce qui m'est arrivé aussi avec le troisième livre il y a un an. Je tiens à préciser, parce que je vois certaines personnes dans la salle, le troisième livre est fini. Il y a quelques corrections qu'ils sont en train de faire. Bien évidemment, il y a certaines personnes qui ont un personnage dans le livre, parce qu'en fait, dans le crowdfunding, je disais, vous pouvez aussi vous payer et vous aurez un personnage à votre nom dans le livre 3. Voilà, dès que les corrections seront entamées, vous aurez ce qu'il faut. Vous verrez quel personnage a été fait. Bref, donc j'espère qu'il va sortir bientôt. Mais je suis allé à la rencontre du public pour écrire mon troisième livre. Voilà, j'ai dit aux gens, allez, le troisième livre, je ne vais pas faire le blog comme d'hab, je vais faire un NaNoWriMo. Il y a des gens actuellement, en novembre, ce mois-ci, qui se disent « Je vais écrire 50 000 mots d'une fiction entre le 1er et le 30 novembre. Je vais écrire un putain de roman. 50 000 mots, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, H2G2, le tome 1, ça fait 50 000 mots. » Et des gens qui se lancent des filles fous. Je me suis dit « Bah tiens, je vais faire ça pour mon troisième roman. » Ouais, je vais faire ça, mais je suis quand même un ancien toxicomane, je suis un peu fragile, j'ai tout le temps mes colocs, mes amis, ma famille. Oh, ça va être compliqué, je vais jamais y arriver. Il me faut du temps. Il me faut une résidence d'écrivain. Eh ben, je vais demander aux gens. Et j'ai fait un « J'irai écrire chez vous ». Voilà. J'ai demandé aux gens, c'était le 25 octobre dernier, donc on est 5 jours avant le 1er novembre, qui m'accueille 3 jours chez lui pour écrire depuis votre wifi, squatter votre canapé, votre frigo. Voilà, pendant 3 jours, je viens, j'écris chez vous, on discute et tout ça, et je passe mon mois de novembre comme ça. Je fais ça le 25 novembre, le 28 novembre, j'avais déjà 30 réponses. Il m'en fallait juste 10, hein, 10 fois 3 jours, ça fait le mois de novembre. J'avais déjà 30 réponses, j'aurais pu aller à Berlin, à Barcelone, c'était un truc de dingue. C'était vraiment formidable, j'ai fait 10 villes, j'ai rencontré plein de monde, j'ai écrit pendant le Capitole du Livre, du coup j'ai dû retourner sur Toulouse, et sur Toulouse je ne suis pas allé chez moi, puisque j'habite ici, je suis allé chez quelqu'un qui m'a accueilli. Voilà. Et des rencontres, des machins, c'était vraiment formidable, parce que, au final, on se rend compte que les gens vont plutôt soutenir une démarche qu'une œuvre. Et ça, c'est hyper important. C'est quand on répare cette œuvre comme ça, quand on arrive à comprendre pourquoi est-ce que cette drogue nous tournait dans un mauvais état d'esprit par rapport à l'audience et au public, et comment est-ce qu'on peut retourner cet état d'esprit vers quelque chose de bon, on comprend surtout que les gens, ils n'ont pas envie d'être des fans, ils ont envie d'être des potes. Et que, au final, il n'y a pas besoin de forcer les gens à payer, c'est ce que va nous dire Amanda Palmer. Je vous recommande son TED Talk, The Art of Asking, j'adore cette femme, elle a sorti un bouquin, The Art of Asking, là maintenant, achetez-le, téléchargez-le, partagez-le. Amanda Palmer dit, mais si au lieu de forcer les gens à payer, on le leur demandait. Alors ouais, faut être là, faut dire aussi aux gens, attention, c'est pas une question de charité. C'est une question de, bah, tu veux participer. Tu peux participer parfois en m'hébergeant, tu peux participer en partageant mes romans, en faisant le travail de diffuseur. Tu peux participer en étant mon éditeur. Bon, mon éditeur, c'est Framabook, de l'association Framasoft. Et mon éditeur, c'est, j'ai pas une personne en face qui travaille avec moi. J'en ai une vingtaine, dont cinq qui vont à un moment donné exclusivement se consacrer à mon roman. C'est des personnes, c'est des typos nazis, c'est des éditeurs dans leur travail, je veux dire, des typos nazis, des grammaires nazis, des orthonazis. Mais c'est génial, c'est parfait pour une édition, quoi, tu vois. Mais voilà, ce sont des gens qui sont bénévoles, qui vont donner de leur temps et de leur professionnalisme pour faire ça. Parce qu'ils croient qu'on peut faire des choses intéressantes avec du livre libre. Et donc, ils se sont inscrits sur la liste Framabook. Enfin, ils ont dit, voilà, Framabook, je veux participer. Et on peut participer à du livre sans développer, ils le font. Voilà. Et du coup, on a ensemble des choses encore plus géniales. Mais voilà, l'idée, c'est de... Tiens, le piédestal, là, moi, j'avais un peu peur, j'avais un peu le vertige. Eh ben, je descends sur ce piédestal. J'arrête d'être dans ces idées de drogue qui m'amènent tout là-haut, aux côtés de Marc Lévy et de Lady Gaga. Ça peut être très drôle, quand même. Ça peut faire une jolie photo.
Mélanger les deux.
Ah ouais? Ah
ben, voilà.
Just do it. Voilà, croisons-les. Faites-moi un Marc Lévy Gaga. Voilà, j'en veux un. C'est formidable. C'est bien, on crée en même temps. Je suis pour. Vous avez des ordinateurs, démerdez-vous. Yagip, voilà, démerdez-vous les enfants. Bref, mais du coup, cette idée de transformer l'énergie, transformer l'énergie pour ne plus se consacrer à l'œuvre en elle-même, mais à la démarche, à la proposition. Et donc d'être là pour récolter les dons. J'ai toujours une anecdote, une de ces personnes-là que j'ai rencontrée à Rennes lors de mon anneau l'année dernière, une de ces personnes, à un moment donné, a voulu me faire un don avec un billet de 50 euros. Recevoir des dons par PayPal, par Flatter, par machin, c'est il y a quelque chose d'un peu abstrait, c'est des chiffres sur un compte, sur un écran. Là, c'est un bifton de 500, de 50. Non, c'était pas 500. C'est un bifton de 50 qui passe d'une main à la main. C'est hyper concret comme don. Et là, tu ressens si c'est de la charité ou pas. S'il y a une question de pitié ou pas. Et en plus, c'était adorable. Il m'attendait en me disant « Tu dépenseras pas tout en bonbon, hein ?» C'était adorable. Pour justement dégager toute gêne et justement dire « Ben voilà, c'est juste... moi, je peux participer comme ça maintenant. Je participe comme ça maintenant. Ok, parfait. Eh ben, 50 boules. Pour les avoir, j'aurais dû à peu près vendre 15 romans. Et cette personne-là n'en a lu que deux, puisqu'il n'y en a que deux qui existent actuellement, et pourtant a participé à cette hauteur-là. Voilà. Et au fur et à mesure, on peut comme ça poursuivre l'inventaire, et on se rend compte qu'en étant dans des dynamiques de confiance, et en exposant comme ça ses œuvres aux quatre vents à la sérendipité, hein, ce joyeux hasard, ce joli chaos qui peut advenir, eh bien, il arrive des choses incroyables qu'on n'aurait pas forcément cru. Incroyables qu'on n'aurait pas forcément cru. Bonjour, je m'appelle Monsieur Théonasme. Enchanté. Ouais, il reste encore un peu d'autres drogues. Hein. La bière était très bonne. Je vous ai dit, je suis chez un éditeur qui s'appelle Framabook, qui édite du livre libre. Bien sûr, je ne suis pas le seul auteur. Heureusement, je suis un éditeur. Il y a aussi des BD qui se font là-bas. Donc J qui est ici présent, qui fait donc le dictionnaire, pour celles et ceux qui connaissent, et qui lit mon premier roman Smart Arded, et qui me dit « Attends, cette idée de ton narrateur, de ton personnage Enguerrand, qui a inventé le métier de connard professionnel, mais c'est fun ça! Mais faut qu'on déconne avec ça, mec !» Et voilà qu'on commence pendant un an à avoir un petit projet secret, le guide du connard professionnel, qui est donc devenu Bastards Inc., dont l'URL est absolument magnifique puisque c'est www.connard.pro. On est fiers. Donc voilà, et donc c'est une espèce de délire entre le roman et la BD. Vous avez des paragraphes de texte, des illustrations, etc. Je scénarise, il dessine et met en page. Et on fait un truc où on s'éclate vraiment, ça nous permet de dire plein de choses, et c'est aussi dans le domaine public. Autre exemple, je fais des chroniques à la radio éphémère, voilà, où je parle de sexe et tout ça. Et à force, eh ben, je rencontre des personnes, notamment Dani Caligula, un vidéaste qui fait de la philo sur YouTube. Et il me dit, enfin voilà, c'est Chronix. Ah, tiens, bonne idée, tu sais, il y a un nombre de gens qui parlent de cul en français sur YouTube. Il y a Lexi Green aux États-Unis qui est formidable, mais il y a plein de jeunes sur cette plateforme qui sont enfermés dans cette plateforme et qui n'entendent pas ce genre de discours un peu libre sur la sexualité. Et pourquoi tu ferais pas ça en vidéo? Et je commence à faire ça en vidéo, je commence aussi à participer à ces doxa. Et on parle de droits d'auteur, on parle de YouTube qui est une plateforme extrêmement privative, Google qui impose des règles iniques, qui change des règles du jeu en cours de route. Et donc voilà, et donc sont nées ces chroniques qui sont sous ces zéros sur YouTube, voilà, que vous pourrez trouver ailleurs que sur YouTube, bien sûr, puisque c'est sous ces zéros. Donc elles sont téléchargeables sur mon site et après vous les diffusez comme vous voulez. Et lui-même a mis du coup toutes ces chroniques sous ces zéros parce qu'il s'est rendu compte, lui aussi, de l'inanité. Voilà, hein, quand on se sort d'une drogue, on commence à faire des émules. Et ça, c'est important. C'est une fois que vous êtes désintoxiqué, c'est important, à un moment donné, aussi de devenir l'outil de la désintoxication. De se rendre compte qu'il y a d'autres modèles possibles, il y a d'autres choix possibles, et de les proposer aux autres. Personnellement, moi je l'ai fait par du militantisme associatif, hein, je fais partie de l'association Framasoft, dont un des projets c'est Framabook, l'éditeur libre, mais voilà, Framasoft, on a des tonnes et des tonnes de projets, le but étant de se poser un peu en trait d'union, entre la communauté du libre, qui parfois est un peu sur elle-même, ou dont certains aspects sont difficiles à aborder quand on n'est pas un peu spécialisé ou quand on n'a pas déjà des clés, et le grand public, hein, la fameuse famille Michu, quand on nous rabat les oreilles, ben voilà, arriver à leur dire, viens, on est bien, regarde, ça peut être facile. Quoi, tu veux pas te mettre sur Linux tout de suite? Ok, c'est pas grave, alors, tu vas garder Windows, mais commence par tel logiciel libre. Tu vois, c'est bien ce logiciel libre. Viens un peu plus, viens... Oh, merde, il y avait du Linux, t'es tombé dedans, désolé. C'est un peu ça l'idée. Je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle Savoir Commun. Je suis un peu dormant actuellement dans ce collectif, mais je vais participer sur une jolie chose qui va se passer tout janvier par rapport au domaine public, on en reparlera certainement. Savoir Commun qui défend les biens communs informationnels, notamment le domaine public. Il faut savoir que le domaine public est constamment attaqué en France par du copy-fraud. Les mêmes personnes qui vous disent qu'ils défendent les auteurs, hein, ces mêmes personnes, nos dealers, là, nos pourvoyeurs de drogue, nos réseaux mafieux, d'accord ? Parce que c'est ça dont il s'agit, ces personnes-là vont voler les droits des gens, vont voler les droits, nos droits à nous. Parce que quand une œuvre s'élève dans le domaine public, ça veut dire qu'elle nous appartient à chacun et à chacune, et que plus personne ne peut se l'approprier. Et pourtant, vous avez des institutions qui sont censées être garantes de ce domaine public, qui vont, une représentation normale, numérique, de la Joconde, par exemple, qui vont poser un copyright dessus. Alors c'est juste une reproduction numérique, qu'elle appartient à tout le monde, que tout le monde devrait pouvoir faire un petit manuel d'éducation pour ses enfants parce qu'il veut mettre la Joconde dedans et d'autres œuvres du domaine public, sans rendre de compte à personne et sans payer quoi que ce soit à personne. Mais non, il y a des gens qui font du copy fraud comme ça. Voilà, le Petit Prince va s'élever dans le domaine public le 1er janvier 2015. Alors, pas en France, parce que malheureusement, il y a des prolongations de guerre à la con, mais dans tout le reste de l'Europe, il sera dans le domaine public. Et donc, comme le Petit Prince est quand même le deuxième livre le plus vendu après la Bible, voilà, il faut le savoir, eh bien, il y a forcément la fondation de Saint-Exupéry qui n'est pas tout à fait d'accord de perdre sa poule aux œufs d'or. Et qui a donc décidé de laisser le Petit Prince s'élever dans le domaine public et de déposer les marques Le Petit Prince, Piconio Princio, etc., etc. Déposer comme marque le Baobab, la rose, le renard, et surtout tous les dessins d'Antoine de Saint-Exupéry, qui vont être déposés comme marque. Donc ce seront des œuvres du domaine public, mais ce seront des marques déposées, que vous ne pourrez donc pas utiliser. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre en place ce projet, j'enjoins toute personne habitant en Belgique, en Suisse, au Canada, toute francophone, à aller sur le site de l'INPI pour voir les marques déposées par la Fondation Saint-Exupéry, et à réécrire Le Petit Prince en remplaçant tous les mots, et en remplaçant tous les dessins par des dessins libres. Il y a plein de dessinateurs libres qui seront ravis de vous aider. Voilà. Faites des versions domaine public CC0 du Petit Prince pour les enculer, et traduisez-les bien sûr. Voilà, parce que c'est juste immonde. Alors, je vais pas parler que de moi là-dessus. devenir un outil à son tour, ça se fait pas forcément uniquement par du militantisme. Thierry Crouzet, comment je le décrirais ? C'est trois auteurs, pareil, qui défendent le libre, chacun à leur manière. Thierry Crouzet, c'est un peu un penseur, quelqu'un qui expérimente en tant qu'auteur, il est vraiment passionnant. Allez sur leur blog, hein. Trouvez-les, ils sont formidables ces gens-là. Thierry Crouzet, par exemple, il a eu une expérience géniale qu'il appelle de l'économie de la paix. Il a écrit en fait la biographie, j'ai oublié son nom, du médecin qui a inventé le gel antibactérien. Non seulement ce mec a inventé le gel antibactérien, il s'est dit c'est trop important ça, parce que dans la médecine, dès qu'on a des mains propres, on arrête les maladies nosocomiales, on arrête les surinfections, on arrête tout ça, c'est trop important, je ne peux pas prioriser ça. Et donc, ce médecin l'a mis dans le domaine public. Et du coup, il a sauvé des millions et des millions de vies. Parce que certains ont fait un business en vendant du gel antibactérien. Et puis, il y a des labos qui ont, ou des hôpitaux qui ont commencé à l'acheter. Puis, ils se sont dit, mais tiens, je peux le produire moi-même. Et puis, surtout, on a eu du gel antibactérien aussi pour les pays du tiers-monde qui ne pouvaient pas forcément payer du gel antibactérien qui aurait été breveté et donc qui aurait eu un tarif exorbitant. Voilà. Et Thierry Crouzet écrit sa biographie, écrit cette expérience, et en fait a réussi à faire financer l'édition de son livre par des industries pharmaceutiques qui voulaient parler du fait qu'on se lavait les mains, qui voulaient parler du gel antibactérien, qui voulaient distribuer gratuitement son livre en pharmacie. Il a été traduit en au moins plus de 6 langues, je pense qu'il y en a eu d'autres qui se sont rajoutées depuis. Ce livre a été traduit, il est sous CC BY-SA, peut-être un NC, je ne suis pas sûr, mais voilà, mais le livre est librement diffusé, quoi qu'il en soit, et lui-même a réussi à se rémunérer sans que les gens ne payent son livre. Ploum aussi, un auteur, Lionel Tricot, que j'adore, lui aussi réfléchit beaucoup sur le prix libre. Il va vous dire ce blog est payant, mais c'est à vous d'en déterminer le prix. Je sais que moi, j'ai lu un de ses romans, je lui ai échangé contre des photos de moi complètement compromettantes qu'il a bien évidemment publiées. J'étais en tutu jupe, un truc de dingue. Voilà, mais c'était un gros délire qu'on a eu ensemble. Et voilà, j'ai payé un de ses romans comme ça, avec des photos de moi ridicules. Et voilà, et il essaie d'imaginer comme ça comment reconsidérer l'échange entre l'auteur et son public. Neil Jobimsi, lui, a fait aussi une expérience formidable. Il a fait le projet Bradbury, où il a dit, tiens, Ray Bradbury. Ok. Ray Bradbury a dit, pour devenir un bon auteur, il faut écrire une nouvelle par semaine pendant un an. Banco, je consacre un an à écrire une nouvelle par semaine. Voilà. Et il a dit aux gens, ben, ceux qui veulent me soutiennent sur ces nouvelles. Vous pouvez acheter des nouvelles sur Amazon, Immatériel, naninaninana. Ou alors, vous pouvez me filer, je crois que c'était 40 euros, hein, plutôt que 52 fois 1 euro. Vous me filez 40 euros et vous aurez accès à toutes les nouvelles au fur et à mesure qu'elles sortent dans l'année. Et il s'est rendu compte, en fait, que les gens n'allaient pas acheter les nouvelles sur les stores. Alors, elles étaient sur tous les stores. Hein. Je crois même qu'elles étaient sur l'iBook Store. Je ne suis pas certain, mais je suis quasiment sûr. Il a fait ça, mais les gens, par contre, payaient les 40 euros, n'allaient pas tout le temps lire toutes les nouvelles. Tout le public n'a pas lu toutes les nouvelles, forcément, mais ils avaient envie de soutenir cette démarche, de soutenir cet auteur et ce défi de se lancer. Et les nouvelles, là aussi, alors lui, je crois que pareil, il utilise de la licence de libre diffusion et non de la licence libre, donc il y a un NC qui traîne quelque part. Néanmoins, c'est hyper intéressant, cette expérimentation. Et ça, c'est à un moment donné, quand on s'est sorti de la drogue, on peut dire, ben, moi-même, je vais devenir un outil, je vais essayer des choses, je vais me tromper, je vais réussir, on ne sait pas. Mais comme ça, je pourrais aider d'autres personnes qui veulent se sortir de la drogue à croire que on peut essayer d'autres choses et qu'on peut trouver d'autres modèles que le modèle du droit d'auteur qui ne marche pas, hein, qui ne nourrit pas les auteurs, je le rappelle. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça qu'au final, en devenant outil, ben, on transmet soi-même le message. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, hein, vous dire que c'est possible, vous dire que vraiment, il y a quelque chose d'important. Oui. Oui. Je sais pas ce qui se passe, c'est pas prévu.
Alors aujourd'hui, c'est mon honneur et un petit peu ma fierté en tant que président des droits d'auteur en ligne anonyme de te remettre ce badge parce que ça fait 2 ans que tu n'as plus touché aux droits d'auteur et je pense qu'on peut l'applaudir très fort.
Bon, pas mal, donc. Merci. Voilà. Voilà. Vous aussi, à un moment donné, hein, n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui a une imprimante 3D de vous faire un badge. Et du blanco, je tiens à préciser. Voilà, bon, tout ça pour vous dire que, au final, ce délire de voir le droit d'auteur comme une drogue, au départ, c'était vraiment venu comme un délire. Je voulais faire une conférence pour les Rebeleleux, je savais pas comment la présenter, ça me pète à un moment donné d'imaginer ça, et j'écris le résumé de la conférence sans absolument savoir ce que je vais y dire, et que plus j'ai préparé cette conférence, plus je me suis rendu compte que c'était ça. Que, comme une drogue, comme une hallucination collective, en fait, se basant sur nos peurs, se basant sur nos envies d'argent, sur nos envies de, à un moment donné, de croire qu'une baguette magique va résoudre tous nos problèmes, on persiste à croire en cette mythologie, à cette hallucination collective du droit d'auteur comme solution. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'elle est la source de bien des problèmes, notamment des problèmes de relation entre le public et l'auteur, et des problèmes de positionnement de l'auteur qui devient vendeur, qui devient outil d'une industrie culturelle, plutôt que de revenir à la création et à la médiation de cette création avec le public. Voilà. Donc je pense que, on peut passer à la prière des droits d'auteur anonymes. Alors là, attention, je compte sur vous, puisque vous avez été très bons sur le début, faut être bons sur la fin. Ensemble, que le grand 42 me donne la force de convaincre les créateurs prêts à se libérer, le courage d'accepter les peurs de ceux qui restent enfermés, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Je pense que c'est Aristote à la base.
Non, je sais plus, ça.
Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, si vous voulez poursuivre un peu l'échange, on peut repousser la conférence d'après, elle est pas bonne. Yes! Yes, on a un début de Marc-Lévy Gaga. Yes! Bravo! J'adore! Ah, c'est joli. Ah, c'est bon, des questions, pas de... des remarques, etc. Je vous propose. Il y a une pause entre les deux conférences? Allez.
Je vous ai rendu timide.
Ah. Merci, tu sautes. Merci, c'est pour lancer la mécanique.
Très bien.
Du coup, tu vis comment?
Comment je vis ou pas?
Question parfaite, merci. Mal.
Je vis
pas mal de solidarité. En fait, je vis comme j'ai toujours vécu en tant que comédien, notamment puisque j'ai refusé l'intermittence du spectacle. Je refusais d'aller sur cette voie-là, puisqu'en fait, je voyais beaucoup trop d'amis perdre la flamme de comédien, parce que bah, pour pouvoir faire la course au cachet et avoir tout leur cachet, soit ils allaient faire des pubs genre « On va flancher !» Et quand t'es devant le micro en train de crier « On va flancher !», tu te dis que t'as vraiment... bah t'as la dalle, quoi. Hein, Soit, l'autre truc, c'est qu'ils allaient là où il y a du fric, hein, donc par exemple dans du théâtre subventionné, souvent du théâtre contemporain, avec anecdote véridique, un metteur en scène qui te dit « Joue-moi le faire repasser mauve !»« Tu n'es pas assez mauve !» Voilà, et là tu te dis « Mais qu'est-ce que je fous là ? J'ai des Molières !» Après, il y a des gens qui adorent ça, et c'est très bien pour eux, hein, je juge pas, mais tu vois, voilà, j'ai refusé de se cacher. Et donc, en fait, je fais comme tous les auteurs vivent, je dégage du temps et de l'argent pour les créations. Moi, ma méthode, ça a été soit de bosser à mi-temps et l'autre mi-temps de créer, soit de bosser un an, deux ans, et après d'être chômage pendant un an, deux ans et de créer. Voilà. Ce qui est toujours très difficile. Je suis précaire depuis 11 ans de vie active. Voilà. Ça veut dire aussi que, que je dépends de la solidarité, que je suis toujours, pendant un an et demi de ma vie, j'ai dépassé le seuil de pauvreté. Merci. Et en même temps, je suis pas forcément stressé par le boulot. Même quand je suis dans un boulot, j'en ai un peu rien à faire, c'est pas ça qui me définit. Je sais très bien ce que je fais vraiment dans la vie, tu vois. Donc j'ai mon premier boulot, c'était coller des étiquettes tous les jours sur des bouquins. Je bossais dans une bibliothèque et j'ai collé les cotes. Donc, je faisais les cotes à l'étiqueteuse, ces petites étiquettes là, et je les collais tous les jours à 8h. C'est très très con, hein, comme boulot. C'est vraiment Bon, j'avais des bouquins tout le temps, c'était cool, ça m'allait, j'avais pas besoin d'un boulot intelligent, je bossais déjà avec mes pièces de théâtre, quoi, pas besoin de ça. Voilà. Après, en effet, je ne suis pas du tout une réussite financière. Voilà. Par contre, je suis très heureux et ma vie est une réussite.
Mais oui, mais comment tu vas faire pour ta retraite, jeune con?
Tu veux dire celle que tu n'auras pas? Je n'en sais rien, mais l'argent, il y en a toujours. Ce n'est pas plus compliqué que ça, l'argent, il y en a toujours. Après, en effet, si à un moment donné, on veut réfléchir de manière intelligente, quand on sait qu'on est dans l'argent d'être, on en parlera dans la prochaine conférence, message subliminal, quand on sait aussi qu'on est dans l'obsolescence du travail, il n'y a plus assez de travail pour tout le monde. Prouvé scientifiquement, bordel! Voilà. Quand on sait que notre économie tient sur l'argent d'être et le travail, on peut se dire, tiens, on pourrait changer les choses sur lesquelles tient notre économie à un moment donné. Parce que ça ne marche plus. C'est. Et en fait, on a réussi à ne plus avoir besoin de travail, ce qui est quand même une putain de réussite. Hein. C'est à ça que devaient servir les machines, l'informatisation. On a gagné. Voilà. Donc, ce serait bien que le travail ne soit plus la seule source d'argent. Donc, on peut penser à des choses comme le revenu de base. Pour la création, on peut aussi penser à la contribution créative. Pour la production, on peut penser au crowdfunding. Je répète juste ce que dit Lionel Morel dans sa conférence qui était formidable et qui était hier. Voilà. N'hésitez pas, hein. Voilà.
Mais alors, voilà. Ouais, mais genre, comment les gens, ils ont une reconnaissance sociale et ils existent s'il n'y a plus de travail pour les... pour leur donner ce lieu d'épanouissement et de reconnaissance sociale.
Donc, comment est-ce que les gens obtiennent de la reconnaissance sociale et existent, ont de l'épanouissement personnel, sans travail? Il faut absolument distinguer le travail et l'activité. Voilà, tout simplement. C'est juste ça. Je vais te répondre très simplement. J'avais un rendez-vous médical et la secrétaire médicale avait besoin, à un moment donné, elle fait, je sais plus comment elle demande, mes catégories socio-professionnelles, quoi. Je la regarde, je suis chômeur. Elle me fait, mais non! En recherche d'emploi. Non, pas du tout. Et donc, elle l'ouvre de grands yeux, un peu choquée. Ah merde, un chômeur qui assume être un parasite. Tu vois? Ah merde, ça existe vraiment. Le Figaro l'avait dit, mais bon. Et donc, je la regarde, je fais, mais attendez, nana, mais non, je suis pas en recherche d'emploi. Je travaille beaucoup trop pour pouvoir avoir un emploi. C'est juste pas possible. Je fais trop de trucs, là, en ce moment. Voilà. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de dissocier l'activité. Je veux dire... est-ce qu'à un moment donné, on a considéré que être mère au foyer, femme au foyer, j'aimerais bien que les hommes y soient aussi, que les pères y soient aussi, c'est un travail ou pas? Par contre, est-ce que c'est pas épanouissant? Est-ce que c'est pas une activité à temps plein? Est-ce qu'à un moment donné, enfin voilà. Et donc, c'est toutes ces choses-là. Je pense que l'épanouissement et les activités, enfin, honnêtement, essayez de ne rien faire pendant une journée. Ne rien faire. Ne rien produire. Pas même une conversation. Ne pas vous cultiver, pas même devant Secret Story. Essayez de vous poser le cul sur votre canapé, de ne pas cuisiner et de regarder votre plafond pendant une journée. Allez, avec des pauses pipi, c'est tout. Voilà, essayez ça, c'est ça. Ne rien faire, c'est ça être un parasite. Essayez, c'est extrêmement dur et tout le monde y arrive.
Bah ça, c'est acquis. Alors après, comment tu fais pour manger, payer ton loyer?
L'argent, il y en a toujours, ça se trouve. Honnêtement, ça se trouve. C'est pas facile. Très honnêtement, hein, là encore maintenant, je viens encore d'emprunter de la thune à un pote parce que je suis dans la mer. Bon, je sais que j'ai un boulot qui m'attendrait vers janvier, qui me permettra d'être moins dans la mer, tout ça. C'est voilà, c'est pas facile, c'est de la précarité. Et l'argent, pourtant, il y en a toujours. On s'en sort toujours. Il y a aussi la solidarité, il y a aussi des copains, il y a aussi tout un tas de choses qui se passent. Si tu veux, le fait est que je pense que de l'ouvrir et d'être ensemble et d'être disponible les uns pour les autres peut déjà énormément aider. Voilà, ne pas être isolé. Quoi. Ça, c'est juste essentiel. Voilà. Comment on fait, je pense, en n'étant pas isolé. Allez, merci beaucoup. Pouillou.com, si vous voulez voir ce qui se passe.